Juste avant de retrouver Michel Favret, ambiance.
La terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars, it would be the greatest adventure ever.
Et oui, on est dans l'ambiance comme cela. On est ravis de retrouver, comme chaque mois, Michel. Bonjour, Michel Favret.
Bonjour, Joël.
Allez, tout de suite, eh bien, on va se lancer sur la chronique. On rappellera à nouveau, bien sûr, constellationsetgalaxies.org. Vous nous direz quelques mots sur la prochaine chronique. Mais pour ouvrir justement cette chronique, en ce mercredi 5 mai, numéro 74, vous allez nous parler de l'actu et commencer par nous donner quelques nouvelles du rover Perseverance, je dis en français, oui. In the text, sur Mars. Donc, Michel.
Voilà, ce mois-ci, hein, à part les informations sur l'observation du ciel, de la rubrique finale, le ciel du mois, cette chronique astronomie sera encore très largement consacrée à l'astronautique, vu les nombreuses actualités des missions martiennes et bien entendu le retour de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, d'ailleurs Thomas Pesquet qu'on entend à plusieurs reprises dans notre petit générique. Pour commencer par le plus lointain, avec Mars, Perseverance est toujours dans sa phase de test depuis son arrivée sur le sol de la planète rouge le 18 février. Et ces dernières semaines, c'est surtout Ingenuity qui a retenu l'attention, puisque ce petit drone a réalisé ses premiers vols dans l'atmosphère martienne. Une première qui s'est faite un peu attendre, car contrairement à ce que j'avais annoncé fin mars, avec un vol qu'on prévoyait pour le 8 avril, il a fallu patienter jusqu'au 19 avril pour voir cet hélicoptère s'élever de 3 mètres, presque en direct, car filmé par Perseverance. Je dis presque, car il ne faut pas oublier qu'avec la distance qui séparait Mars et la Terre ce jour-là, dans les 250 millions de kilomètres, le signal mettait dans les 16 minutes à nous parvenir. C'était donc en fait du léger différé. Mais ce délai illustre bien qu'il est impossible de télécommander ces engins depuis la Terre, car on ne saurait qu'un problème se pose qu'avec 17 minutes de retard, et le temps que la commande parvienne jusque là-bas, toute réaction arriverait 32 minutes plus tard, largement trop, pour éviter un crash d'Ingenuity ou une collision avec un rocher, pour le rover Perseverance. Il faut bien avoir en tête que toutes les évolutions des engins qu'on envoie aussi loin de nous ne peuvent être réalisées qu'en autonomie. La Terre leur envoie des instructions, mais c'est l'informatique embarquée qui les exécute en temps différé, avec toute l'assistance des divers capteurs et caméras. Ingenuity est un petit drone de type hélicoptère, mais il est conçu d'une manière un peu différente des drones qu'on a l'habitude de voir évoluer sur Terre, souvent avec plusieurs hélices, 4 ou 6 la plupart du temps, disposées tout autour du corps, comprenant les batteries et toute l'électronique. Pour éviter que leur rotation ne fasse tourner le drone dans l'autre sens, hein, c'est le fameux vieux principe action-réaction de Newton, la moitié tourne dans un sens et les autres en sens inverse pour que les effets se compensent. Pour les gros hélicoptères, c'est la petite hélice de queue qui assure cette compensation. Sur Mars, l'atmosphère est si peu dense que la même masse à soulever oblige à utiliser des hélices bien plus grandes, même si la gravité est plus faible que sur Terre, environ un tiers. Donc au lieu de les disposer tout autour, ce qui aurait nécessité des bras très longs, pénalisant en termes de poids, les concepteurs d'Ingenuity l'ont doté de seulement 2 grandes hélices de 1,20 m d'envergure, disposées l'une au-dessus de l'autre et tournant dans les deux sens opposés, toujours pour compenser leurs effets de rotation sur le drone. Et tout en haut se trouvent les petits panneaux solaires pour leur éviter l'ombre des pales. Car ce n'est pas la moindre des difficultés techniques de ce prototype. Depuis qu'il a été largué par Perseverance sur le sol, il est autonome et doit être alimenté suffisamment pour que son électronique survive aux nuits martiennes glaciales. Hein, souvent, il fait dans les moins 70 degrés ou même encore pire. Tout en n'étant pas trop lourd pour ne pas pénaliser son autonomie de vol. Mais le plus grand défi était bien de soulever cet engin d'environ 2 kg dans la très faible atmosphère martienne, la pression au sol étant d'environ 1,5% de ce qu'elle est sur Terre. C'est ce qui a été réussi le 19 avril avec juste un petit test stationnaire de 20 secondes à 3 mètres de hauteur. Une date qu'on peut considérer comme historique, car premier vol d'un engin fabriqué par l'homme sur une autre planète que la Terre. On peut voir la vidéo sur le site de la NASA, notamment sur l'APOD, Astronomy Picture of the Day, du 20 avril, et on a aussi les images d'une caméra noir et blanc embarquée sur Ingenuity, où l'on voit très bien l'ombre du drone sur le sol martien.
Alors Michel, est-ce qu'il y a eu d'autres vols depuis ?
Oui, mais ils ont eu moins de retentissement médiatique, car les journalistes préfèrent parler des premières. Le deuxième vol a eu lieu le 22 avril vers 11h30 heure française avec une montée jusqu'à 5 mètres et un déplacement latéral de 2 mètres. Pour l'occasion, Ingenuity a utilisé une autre caméra embarquée pour nous faire des images en couleur et en plongée, montrant persévérance au loin et même les traces laissées par ses roues sur la planète rouge. Le troisième vol était le dimanche 25 avril, toujours à 5 mètres de haut, mais cette fois avec un déplacement horizontal de 50 mètres, suivi d'un demi-tour pour faire le trajet inverse et revenir se poser à son point de départ. Le tout a duré dans les 80 secondes, avec une vitesse de pointe d'environ 7 km/h. On peut trouver que les ingénieurs de la NASA sont plutôt timorés, mais il ne faut pas oublier que ces évolutions sont réalisées en toute autonomie par le drone et qu'il n'y aurait aucun moyen de récupérer la moindre erreur depuis la Terre. De plus, pour simuler l'atmosphère martienne, les essais sur Terre ont dû être effectués dans une chambre à vide dont les dimensions, à peu près 25 mètres de hauteur et 75 mètres de diamètre, n'ont jamais permis de tester de grands déplacements. Le quatrième vol, et à ma connaissance le dernier effectué, remonte à jeudi dernier, le 30 avril, vers 16h. Après un petit raté la veille, le drone n'ayant pas réussi à démarrer son vol. Comme quoi, rien n'est jamais acquis lors des missions d'exploration planétaire. C'était encore un aller-retour à 5 mètres d'altitude, mais cette fois sur une distance bien plus longue, s'éloignant jusqu'à 130 mètres de son point de départ et sur une durée de près de 2 minutes. À cette occasion, il a mitraillé une soixantaine de photos en approchant du point le plus éloigné de sa course, dont certaines en relief avec une paire de caméras noir et blanc, afin d'étudier les caractéristiques du terrain survolé. Bien entendu, tous ces vols d'essai ont permis de recueillir de nombreuses données sur le comportement du petit hélicoptère en environnement réel, par exemple sur la poussière qu'il soulève au décollage ou ses performances de vol en fonction du réglage de ses pales et de leur vitesse de rotation. Tout ceci afin d'optimiser son fonctionnement pour les prochains vols. Selon ce qui a été publié par la NASA, le cinquième vol devrait pour la première fois être un aller simple avec un atterrissage sur un autre point que celui du décollage. Donc un certain risque en fonction du terrain rencontré. Le train d'atterrissage constitué de 4 pattes souples ne maintenant le corps d'Ingenuity qu'à une quinzaine de centimètres du sol, hauteur insuffisante s'il rencontre de grosses pierres. Si tout se passe bien, le petit hélicoptère n'aura plus besoin des services de persévérance pour surveiller ses essais, ce qui laissera enfin au rover la possibilité de se consacrer à ses propres déplacements et sa mission d'analyse et de collecte d'échantillons. Et en passant d'une phase de démonstration technologique à une véritable exploitation de ses possibilités de vol, les explorations du drone permettront peut-être de sécuriser les évolutions du rover en réalisant des reconnaissances préalables du terrain.
Alors malgré ces réussites, Michel, vous m'avez paru un petit peu contrarié.
Alors en effet, et pour une raison toute simple, comme à chaque fois qu'on découvre de nouvelles régions de la planète rouge, la NASA donne des noms aux formations révélées par les sondes. Et elle a choisi de baptiser la zone de décollage d'Ingenuity pour ses premiers vols Wright Brothers Field, ce qu'on pourrait traduire par « terrain sous-entendu d'aviation » des frères Wright. Voulant ainsi rendre hommage aux frères Wright, qui ont réussi le premier vol d'un plus lourd que l'air, auparavant il y avait eu des montgolfières et d'autres ballons, le 14 décembre 1903 en Caroline du Nord avec leur biplan Flyer. La NASA faisant ainsi le parallèle entre le premier vol sur Terre et le premier vol sur Mars un peu plus d'un siècle plus tard. Sauf que ce n'est que de la propagande américaine. En effet, le premier vol d'un plus lourd que l'air a été réalisé en France dès septembre 1891 près de Paris par Clément Ader, qui a d'ailleurs inventé le mot avion, lors d'une démonstration devant des militaires. On pense même qu'un premier saut de puce aurait été réussi dès le 9 octobre 1890, mais sans autre témoin que ses propres employés. Et son troisième prototype, capable d'embarquer un observateur en plus du pilote, a réalisé à la demande de l'armée une démonstration officielle le 12 octobre 1897 au camp militaire de Satori. Donc on peut se permettre un petit cocorico, car le premier vol d'un avion a eu lieu en France et au moins 10 ans avant celui des frères Wright, auquel on peut quand même reconnaître l'invention d'un moteur à essence léger, alors que les prototypes de Clément Ader utilisaient un moteur à vapeur, Et surtout, ils ont conçu un système de contrôle couplant gouverne et torsion des ailes, permettant enfin une véritable maîtrise du vol, alors que les évolutions du français n'étaient pas totalement contrôlées. Et quitte à faire preuve d'un peu de chauvinisme, je vais aller encore un peu plus loin, car pour baptiser l'ère de vol d'Ingenuity, on aurait pu faire le parallèle avec le premier vol d'un hélicoptère sur Terre. Et ça me ramène directement à ma région natale, la Franche-Comté, et même ma ville natale, Montbéliard. À part pour ses saucisses, elle n'est sans doute pas aussi connue que sa petite banlieue appelée Sochaux, renommée pour être le berceau des automobiles Peugeot et de son club de foot, l'un étant d'ailleurs lié à l'autre. Et pourtant, sur le petit aérodrome situé à quelques kilomètres, à Arbouan pour être précis, on peut voir la plaque commémorative du premier vol d'un hélicoptère le 4 mai 1924 sur une distance de 1 km en boucle. Son inventeur était Étienne Hoé-Michène, d'ailleurs c'était le nom de la rue où se trouvait mon lycée, né à Chalon-sur-Marne en 1884, et ses prototypes étaient développés en association avec Peugeot à Valentinier, l'implantation initiale de la marque qui s'est ensuite spécialisée dans les vélos. Curieusement, ces engins, que nos auditeurs ont pu voir dans des vieux films du début de l'aviation ou qu'ils trouveront facilement sur Internet, ressemblent un peu à nos drones modernes, bien entendu beaucoup plus gros, avec le pilote installé au centre d'un dispositif à plusieurs hélices. Il y en avait en tout 12 pour celui du vol de 1924, 4 grosses horizontales pour la sustentation et 8 pour la direction. Mais pour en revenir à Mars, il ne faudrait pas oublier Persévérance, car il a lui aussi réalisé une grande première. Dans la soirée du 20 avril, son dispositif baptisé MOXIE a réussi à produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Pour cela, il puise et comprime l'air martien, qui est composé à 96% de gaz carbonique CO2, puis il le chauffe à 800 degrés, ce qui permet de le décomposer en ions oxygène, O, et en monoxyde de carbone, CO. Et les ions d'oxygène peuvent ensuite se recombiner en O2, comme notre radio, l'oxygène que nous respirons dans l'air terrien, alors qu'il n'y en a guère que 0,13% dans l'atmosphère martienne. Pour cette démonstration technique, les quantités sont dérisoires. 5 grammes d'oxygène produit en une heure, alors qu'un adulte respire environ 90 grammes à l'heure. Mais cela est très encourageant pour les futures explorations humaines de Mars, car avec des installations bien plus grandes, MOXIE n'étant pas plus gros qu'une batterie de voiture, on pourrait envisager de produire des quantités suffisantes pour permettre aux explorateurs de respirer en utilisant les ressources sur place, plutôt que de devoir emporter avec leur vaisseau tout l'oxygène nécessaire à la mission de plusieurs mois, probablement dans les 1 an et demi. Ce serait un gain de poids considérable, paramètre qui est toujours critique pour les missions spatiales où chaque kilo emporté loin de la Terre coûte très cher. Et aussi, cela garantirait une certaine autonomie aux astronautes au cas où ils se retrouveraient bloqués sur Mars plus longtemps que prévu.
Alors à propos d'astronautes, Michel, notre célèbre spationaute français Thomas Pesquet est de retour à bord de l'USS.
Et bien entendu, ça aurait été pour nous la nouvelle spatiale de ce mois d'avril. La plupart de nos auditeurs ayant sans doute suivi le début de cette mission dans les médias, peut-être même en direct, le lancement du 23 avril et l'arrivée à l'ISS le lendemain, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit ou vu, mais je voudrais éclairer quelques particularités de ce vol. Tout d'abord, le fait que le lancement a été réalisé par la société privée SpaceX, à laquelle la NASA sous-traite ses transports vers l'ISS, permettant aux Américains de s'affranchir enfin du recours aux Soyouz russes. C'était sa 3e mission habitée vers l'ISS, après un vol de test en mai 2020 et la mission Crew 1 en novembre. Avec cette capsule Crew Dragon et son lanceur Falcon 9, c'est vraiment une nouvelle génération de vaisseaux qui est mise en service par rapport aux Soyouz qui ont commencé leur carrière dans les années 1960. Après son retour sur Terre, la capsule est réutilisable en principe une dizaine de fois. Et d'ailleurs, celle à bord de laquelle Thomas Pesquet s'est embarqué avait déjà utilisé pour le vol du 30 mai 2020. Cette réutilisation est fondamentale pour abaisser le coût des vols spatiaux. De même pour son lanceur Falcon 9, dont le premier étage vient se reposer en douceur quelques minutes après le lancement pour pouvoir être recyclé, ce qu'on a pu voir en suivant le lancement en direct. Ce plus gros composant de la fusée représente une part importante de son coût, je crois dans les 70%. Le premier étage du lanceur qui a propulsé Crew 2 le 23 avril avait déjà servi pour le lancement de Crew 1 le 16 novembre. Je crois que le record date d'août dernier où le lancement de 57 satellites Starlink a été réussi avec un premier étage de Falcon 9 qui en était à sa 6e réutilisation. Même s'il est assez difficile de connaître le véritable coût d'un lancement, qui serait, d'après ce qu'on sait, facturé 55 millions de dollars par astronaute à la NASA, hein, ça fait cher du billet, on estime que la réutilisation partielle du Falcon 9 aurait divisé ce coût par deux. L'agence américaine semble d'ailleurs satisfaite de son partenariat avec SpaceX, dont les services sont utilisés aussi pour des missions cargo d'envoi de matériel et de ravitaillement vers l'ISS. La dernière fois, c'était le 6 décembre dernier, et le prochain vol cargo de SpaceX devrait être le 3 juin. Ce serait le 22e ravitaillement de l'ISS assuré par SpaceX, un marché qui est partagé avec d'autres opérateurs privés. Mais cette coopération avec la société spatiale d'Elon Musk va plus loin, car on a appris le 16 avril que la NASA avait choisi SpaceX pour des futures missions lunaires plutôt que ses concurrents Blue Origin et Dynetics. Cette annonce a surpris tout le monde, dont peut-être nos auditeurs, car il s'agit d'envoyer sur la Lune le fameux vaisseau Starship, une fusée complètement réutilisable, donc capable de se poser puis de redécoller de la Lune, alors que tous les derniers essais de ce prototype se sont traduits par des échecs que j'ai relatés au fil des dernières chroniques. Et cela ne s'est pas arrangé, car alors que j'annonçais ici l'explosion du numéro 10 juste après son retour en douceur le 3 mars, j'ignorais que la veille, mardi 30 mars, le numéro 11 avait explosé en vol durant sa phase de redescente. Ces catastrophes répétées ne semblent pas pourtant avoir inquiété outre mesure la NASA, mais je rappelle que de son côté, elle développe son propre système de mission humaine lunaire avec son lanceur lourd SLS et la capsule Orion, conçue en coopération avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Personnellement, je crois que cette voie plus traditionnelle, car reprenant une bonne partie des solutions qui avaient fonctionné dans les années 1960-70 avec Apollo, a sans doute de meilleures chances d'aboutir. Mais sur le plan de l'image, on pourrait souhaiter voir à l'unir puis redécoller le gros vaisseau Starship, rappelant un peu la fusée rouge et blanche de Tintin, car tout le monde sait que le héros de Hergé a été en fait le premier homme à poser le pied sur la Lune en 1954, 15 ans avant Neil Armstrong.
Alors revenons à l'ISS si vous voulez bien Michel, avec Thomas Pesquet qui a dû supporter une certaine promiscuité à bord.
Alors en effet, l'autre nouveauté importante de Crew Dragon, c'est le design plus moderne et épuré de la capsule qui est plus spacieuse et donne une capacité d'emport supérieure. Si les Soyouz étaient limités à 3 astronautes dans leur espace exigu, les deux missions Crew Dragon jusqu'à l'ISS ont emporté 4 astronautes à chaque fois. Au départ, SpaceX prévoyait même de pouvoir accueillir jusqu'à 7 astronautes à la fois, mais cette option a été abandonnée pour réduire le poids quand on a choisi de revenir sur Terre par amerrissage sous parachute, alors qu'un retour motorisé, comme pour le Falcon, avait été envisagé au départ. Cette augmentation du nombre d'astronautes transportés a donc posé un problème de surpeuplement temporaire de l'ISS. En effet, elle accueillait habituellement 6 passagers depuis 2009 au fil des rotations des Soyouz avec 3 nouveaux arrivants pour 3 redescendants sur Terre peu après. La dernière fois, c'était le 9 avril dernier avec un Soyouz baptisé Gagarine en hommage au premier homme envoyé dans l'espace par l'URSS il y avait presque exactement 60 ans, le 12 avril 1961. Elle emportait l'habituel équipage de 3, 2 Russes et 1 Américain. Mais comme la mission Crew One avait amené 4 astronautes en novembre, l'équipage était monté pendant quelques jours de 7 à 10, jusqu'au retour de l'autre Soyouz sur Terre, car le Gagarine doit rester amarré pendant 6 mois à la station. Avec le départ de 3 astronautes, 2 Russes et 1 Américaine, cela ramenait l'effectif de l'ISS à 7. Mais avec l'arrivée de Crew 2 et de 4 astronautes, dont Thomas Pesquet, 2 Américains et 1 Japonais, on est passé temporairement à 11, comme on a pu le voir sur la petite cérémonie d'accueil des arrivants. Ceci a dû quand même poser pas mal de problèmes aux passagers, car il n'y a que 6 cellules de couchage aménagées. Donc presque la moitié de l'équipage a été soumis à une sorte de camping improvisé. Et je ne parle même pas des 2 seules toilettes à bord. Heureusement, avec le retour réussi de Crew One dimanche dernier, amerrissant de nuit dans le golfe du Mexique avec son équipage de 4, l'effectif sur l'ISS est revenu à 7, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Un autre aspect de cette mission Crew 2 a pu surprendre nos auditeurs. C'est la durée du vol vers l'ISS qui était d'environ 23 heures. Le décollage ayant eu lieu le vendredi 23 avril vers midi, heure française, et le ramérimage à l'ISS le samedi 24 vers 11 heures. Pourtant, on sait que l'ISS orbite à environ 400 km d'altitude au-dessus de nos têtes, une distance somme toute très petite à l'échelle spatiale, hein, c'est même pas Paris-Bordeaux à vol d'oiseau. Et on sait que les fusées sont très rapides. Après environ 2 minutes et demie de fonctionnement de son premier étage, le Falcon 9 atteint une vitesse d'environ 4000 km/h. On pourrait donc s'attendre à rejoindre l'ISS en une dizaine de minutes. Alors pourquoi un si long trajet de presque une journée ? La réponse est simple. Il ne s'agit pas de couper tout droit vers l'ISS, mais de rejoindre progressivement son orbite, pratiquement à la même vitesse qu'elle, environ 28 000 km/h, soit un tour de la Terre en 1h30, pour l'aborder en douceur. Et sur les images de la jonction, on peut voir à quel point cette approche est prudente. Pour parcourir les 200 derniers mètres séparant les deux vaisseaux, en vol totalement automatique, il a fallu environ 20 minutes, dont 5 minutes pour les 20 mètres de l'approche finale avant l'arrimage. Pour obtenir ce résultat, le lanceur place la capsule sur une orbite bien plus basse que l'ISS, à environ 200 km d'altitude, puis commence une sorte de course-poursuite pour augmenter progressivement cette altitude et rattraper l'ISS sur son orbite en utilisant ses propres moteurs. Cette durée d'environ 23 heures pour rejoindre l'ISS est plutôt longue, comme pour Crew 1, qui l'avait faite en 27 heures, car les vols à bord des Soyouz étaient généralement d'environ 6 heures et 4 orbites autour de la Terre, mais les Russes réalisent parfois de bien meilleures performances, par exemple avec le Gagarin, qui a rejoint l'ISS en à peine plus de 3 heures et seulement 2 orbites autour de la Terre.
Alors à propos de cette mission, la mission de Thomas Pesquet, je crois que vous vouliez faire des annonces à nos auditeurs.
Voilà, en effet, pour ceux qui se sentiraient des vocations d'astronautes, je rappelle que l'ESA a lancé le 31 mars un recrutement d'une nouvelle génération de spationautes européens, comme on l'avait évoqué dans la chronique du 3 mars. Et il est encore temps de se porter candidat, puisqu'il est possible de déposer son dossier ce mois-ci, jusqu'au 28 mai pour être précise, sur le site dédié à cette opération. Et comme l'évocation d'astronaute ou plus largement de scientifique naît souvent dès l'enfance, je rappelle qu'une des expériences de Thomas Pesquet dont nous avions parlé la dernière fois concerne 2000 établissements scolaires français. Il s'agit de suivre le développement en apesanteur d'un blob, un organisme unicellulaire géant de son vrai nom Physarum polycephalum, et de le comparer avec celle sur Terre en classe avec des kits qui seront fournis par le CNES, le Centre National des Études Spatiales, en partenariat avec le CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Pour les enseignants qui seraient intéressés de proposer cet atelier pédagogique qui s'appelle « Élève ton blog » dès la rentrée à leur classe, du CE2 jusqu'au lycée, il est encore possible de s'inscrire sur le site du CNES jusqu'au 21 mai. On peut d'ailleurs entendre l'annonce de Thomas Pesquet, enregistrée avant sa mission, concernant ce partenariat.
Bonjour à tous. Vous savez que je vais bientôt partir dans l'espace pour 6 mois dans le cadre de ma nouvelle mission Alpha. Alors je vous propose d'adopter un blob. Le blob, c'est un organisme unicellulaire qui peut atteindre plusieurs mètres carrés. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Le CNES et le CNRS m'ont proposé de réaliser cette expérience incroyable à bord de la Station Spatiale Internationale et que vous pourrez reproduire avec votre classe dès la rentrée prochaine. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Cet organisme n'a pas de cerveau, mais il est doté de capacités d'adaptation hors du commun. Pas mal, non ? J'espère que vous allez être nombreux à me suivre pendant que je mettrai en œuvre cette expérience dans l'ISS. Pour tout savoir sur l'expérience Blob Terre, les modalités d'inscription et l'appel à projet, rendez-vous sur le site du CNES. Je compte sur vous pour m'accompagner pendant ma mission. Je suivrai avec plaisir ce qui se passe dans vos classes depuis là-haut. Alors prenez soin de vous et de votre blob.
Alors en fait, j'ai extrait ce court passage audio d'une vidéo de 13 minutes présentant l'opération que les enseignants pourront trouver sur la page dédiée du CNES.
Alors on parle beaucoup de l'ISS et de la NASA, mais les Chinois ont eux aussi un projet de station spatiale. Dites-nous en plus,
oui,
Michel.
On a pu entendre dans les médias que jeudi dernier, 29 avril, la Chine avait lancé avec succès sa 6e fusée Long March 5, emportant le premier élément de sa future station spatiale, un module de 22 tonnes, long de 16 mètres et de 4,20 mètres de diamètre. Baptisé Tianhe, alors je ne garantis pas la prononciation du chinois, c'est-à-dire « harmonie céleste », ce gros cylindre devrait être le noyau central autour duquel s'assemblera la SSC, Station Spatiale Chinoise. Il semble d'ailleurs que la Chine compte avancer rapidement dans cette construction, car il doit être rejoint par un vaisseau cargo Tianzhou dès la mi-mai et par un premier équipage de 3 taïkonautes dès le mois de juin. À terme, la SSC pourrait concurrencer l'ISS en assurant une présence chinoise permanente à 370 km d'altitude. J'ai été très étonné que la plupart des médias nous parlent de la future station spatiale chinoise, car ce sera en fait leur 3e station en orbite. Même si on en parle moins, car la CNSA, l'agence spatiale chinoise, est toujours avare d'informations sur ses missions spatiales, Tiangong 1 avait été lancé en 2011 et avait servi de test pour les rendez-vous automatiques avant d'accueillir un premier équipage en juin 2012, puis un second. Bien plus modeste que l'ISS, avec ses 8 tonnes et 15 mètres cubes de volume intérieur, sa mission initialement prévue de 2 ans a été prolongée jusqu'en 2016 pour vérifier le vieillissement de ses équipements lors d'un séjour prolongé dans l'espace. Sa fin n'a pas été très claire car il semblerait que la CNSA avait perdu son contrôle, les dates annoncées pour sa rentrée atmosphérique n'ayant pas été respectées, et c'est le 2 avril 2018 qu'elle s'est désintégrée au-dessus de l'océan Pacifique. Entre-temps, la Chine avait mis en orbite sa seconde station spatiale, Tiangong 2, au départ un simple clone de la numéro 1 qui pouvait servir de secours si elle échouait et qui avait été modifiée pour de nouveaux objectifs. De même format que Tiangong 1, soit 8 tonnes, elle a été lancée le 15 septembre 2016 et le vaisseau Shenzhou 11 l'a rejointe le 17 octobre avec un équipage de 2 taïkonautes qui sont restés 33 jours à bord. Un microsatellite avait même été largué pour prendre une photo de l'assemblage des deux engins. Il semble que ce fut sa seule mission habitée jusqu'à sa rentrée atmosphérique le 19 juillet 2019. Avec le projet SSC, les Chinois affichent des ambitions bien plus importantes, car elle sera constituée de plusieurs modules assemblés, un peu comme l'ISS. Tian'e, lancé jeudi dernier, l'espace habitable principal, sera rejoint en 2022 par 2 modules scientifiques à peu près du même format, Wang Tian, soit quête des cieux, et Mang Tian, ou rêve des cieux, qui doit venir s'arrimer au bout du module central avant d'être déplacé sur les côtés par un des 2 bras robotisés qui équiperont la station et pourront aussi être utilisés lors de sorties extravéhiculaires des taïkonautes. Si on voit que le projet de la CNSA ressemble un peu à l'ISS, elle est encore loin en termes de taille. Sa masse totale sera d'environ 66 tonnes contre 450 tonnes pour l'ISS et son volume pressurisé total de 110 mètres cubes, donc à peu près le quart de celui de l'ISS.
Allez, on est toujours dans le cadre de notre journal sur de Radio 91.3 FM. C'est la 74e chronique astro avec Michel Favret. Et Michel, vous allez aborder le sujet, le thème du mois autour de la Station Spatiale Internationale, l'ISS donc.
Ben oui, avec cette actualité dense concernant l'ISS et sa future concurrente chinoise, j'ai pensé qu'il serait utile de refaire le point sur ce vaisseau qui orbite au-dessus de nos têtes depuis 1998 et qu'on peut souvent voir traverser le ciel le soir ou le matin. Sans refaire l'historique de la conquête spatiale, ce que j'avais résumé en 2 chroniques en octobre et novembre 2016, on peut rapidement resituer ce projet dans le contexte de l'époque. Après les premières réussites soviétiques des années 1950 et début 60, la décennie 1960 aura été marquée par la course à la Lune que se livrent USA et URSS dans le contexte de la guerre froide et qui sera remportée par les Américains avec la réussite de leur programme Apollo, finalement abrégé puisque les missions Apollo 18 à 20 seront annulées. Après cette concurrence acharnée, l'objectif Lune est abandonné, ainsi d'ailleurs que toutes les missions humaines plus lointaines comme vers Mars. Mais pour ne pas renoncer totalement à l'espace, tout en lui consacrant un budget beaucoup moins colossal, les Américains se tournent vers des missions en orbite autour de la Terre, en commençant par le Skylab en 1973 et 1974, un petit laboratoire en fait bricolé à partir d'un étage des fusées Saturn V, qui n'est pas sans rappeler les Tiangong chinoises, un seul module, mais à l'époque quand même de 90 tonnes. De leur côté, les Soviétiques ont aussi un programme d'orbiteurs habités avec les Salyut, dont le premier exemplaire est lancé en 1971. C'est aussi sous la présidence de Richard Nixon qu'une certaine détente se fait jour entre les deux blocs, ce qui permet d'envisager en 1972 une collaboration dans le domaine spatial avec une première rencontre, Apollo-Soyouz, qui se concrétisera en juillet 1975. C'était le début de la coopération internationale dans l'espace qui s'est poursuivie avec la station soviétique Mir, ce qui veut dire paix en russe, mise en service en 1987, qui a inauguré le concept de présence humaine permanente en orbite terrestre et qui s'est progressivement agrandi par l'assemblage de différents modules pendant 10 ans pour aboutir à sa configuration finale en avril 1996 avec une masse de 124 tonnes et des dimensions de l'ordre de 20 mètres par 30. Il faut rappeler que tout ce processus a été perturbé par l'éclatement de l'URSS en différents pays indépendants au début de la décennie 1990, le programme spatial étant repris par la seule Russie. Mir accueille à son bord notamment des spationautes européens, à commencer par le français Jean-Loup Chrétien en 1988 et qui est d'ailleurs retourné en 1997, puis Michel Tognini en 1992, Jean-Pierre Aigneret en 1993 et 1999, Claudie Aigneret en 1996, Jean-François Clairvoy en 1997 et enfin Léopold Eyhartz en 1998, pour ne parler que des Français. En 1992 est signé un accord entre les présidents George Bush et Boris Eltsine permettant à des Américains de séjourner à bord de Mir, les Américains aidant financièrement les Russes à terminer l'assemblage de Mir. C'est ainsi qu'en novembre 1995, un module est ajouté pour permettre l'arrimage des navettes spatiales américaines et qui sera utilisé 11 fois avec parfois des cosmonautes russes transportés à bord des vaisseaux américains et réciproquement. Le premier Américain à bord de Mir fut Norman Taggart en mars 1995 et il était monté à bord d'un Soyouz. Au total, 11 astronautes américains ont été accueillis à bord de Mir, totalisant 975 jours de présence dans l'espace, le record étant de 188 jours, soit 6 mois, pour Shannon Lucid, une femme, comme son prénom l'indique, en 1996, et avec certaines premières, comme la sortie dans l'espace de Jerry Leininger, en compagnie d'un homologue russe, tous deux équipés de la combinaison spatiale soviétique Orlan, en 1997. Après 15 ans d'existence, le dernier équipage a quitté Mir en juin 1999. Et à cette époque, le freinage atmosphérique de la station lui fait progressivement perdre de l'altitude. Et nos auditeurs se souviennent peut-être de certaines prédictions apocalyptiques sur la possibilité de chute de débris au sol, notamment par le couturier Paco Rabanne, exploitant sans doute les peurs millénaristes inconscientes du public à l'aube du XXIe siècle. Mais c'est proprement, si je peux dire, que les Russes ont désorbité Mir en mars 2001 avec un vaisseau Progress chargé de la pousser hors de son orbite et la faire se désintégrer dans l'atmosphère, seuls les éléments les plus solides s'étant écrasés dans le Pacifique Sud.
Et ce sont donc ces premières stations orbitales et le début de cette coopération internationale dans l'espace qui sont à l'origine de l'ISS.
Exactement. Le projet est lancé par Ronald Reagan en 1983, sans doute pour concurrencer les Salyut et la future Mir soviétique. Mais dès 1984, il annonce la volonté de construire l'ISS en coopération avec d'autres pays. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, s'associe au projet en 1985, suivi la même année par la CSA, l'Agence spatiale canadienne, puis la JAXA, la japonaise. En 1993, après la dislocation de l'URSS et une réduction drastique des programmes spatiaux soviétiques, à moins de 10% de ce qu'il était à la fin des années 80, les Russes sont invités par Clinton à rejoindre le projet piloté par la NASA. Le cadre juridique de cette coopération internationale est principalement l'IGA, l'accord intergouvernemental de l'ISS, signé le 29 janvier 1998 par les 15 pays impliqués dans le projet. L'ESA compte pour 11 avec tous les pays qui la composent. Son principe est que la présence à bord sera proportionnée à la participation de chacun des partenaires et notamment des modules développés par chacune des agences. Pour l'ESA, il est de 8,3% des droits de la partie non russe, ce qui permet d'y envoyer un spationaute environ 3-4 mois par an en moyenne. La NASA détient environ 77%, les Japonais 13% et les Canadiens seulement 2%. Mais l'accord prévoit la possibilité de faire du troc. Par exemple, l'ESA a échangé la construction de deux nœuds, c'est-à-dire des jonctions entre gros modules, contre le transport de son laboratoire Columbus par la navette spatiale américaine. Et elle a aussi troqué la moitié de l'utilisation de ce module par la NASA en échange des transports par la navette. La construction en orbite a commencé en novembre 1998, avec l'envoi du module russe Zarya par une fusée Proton, suivi par le module Unity de la NASA transporté par une navette. Mais cet assemblage connaîtra un retard de 1 an et demi après l'échec de l'envoi du deuxième module russe Zvezda. Or, c'était le premier module permettant l'hébergement d'astronautes à bord. L'assemblage des modules s'est poursuivi pendant des années, comme un gros mécano, avec une très forte participation des navettes américaines qui étaient de véritables cargos, avec leur soute de 18 mètres de long et leur capacité d'emporter 16 tonnes jusqu'à l'ISS. Il leur faudra en tout une quarantaine de vols pour mettre en orbite les 400 tonnes de la station, avec une interruption de 2 ans et demi après l'accident de Columbia en 2003. La construction peut être considérée comme achevée en 2011, avec 13 modules pressurisés, même si on a encore ajouté en 2015 un module gonflable expérimental et qu'il est prévu d'y envoyer en juillet prochain un nouveau laboratoire russe baptisé Nauka. Cet ensemble a des dimensions impressionnantes pour un engin en orbite, avec une taille d'environ 110 mètres par 70, soit plus grande qu'un terrain de foot, sur une hauteur de 30 mètres. Le tout représente une masse de 450 tonnes. Mais cette envergure impressionnante est trompeuse, car la plus grande partie sont les énormes panneaux solaires qui l'alimentent en électricité. La partie habitable pressurisée est constituée surtout d'une colonne vertébrale d'environ 50 mètres de long, assemblage des 5 modules Zvezda et Zarya russe, Unity, Destiny et Harmony américain, même si les deux nœuds étaient en fait fabriqués par l'ESA. Sur cet axe principal sont connectés perpendiculairement les autres modules pressurisés, notamment le laboratoire japonais Kibo et l'européen Columbus, ainsi que le module multi-usage Leonardo construit par les Italiens. Tout ça représente un volume total pressurisé de 388 mètres cubes. Pour se faire une idée de l'espace réellement disponible pour les passagers, il faut se représenter l'axe principal comme l'assemblage de 5 bus en file indienne, avec un espace intérieur d'environ 2 mètres sur 2. L'occupation humaine, donc on voit que c'est quand même pas très grand, hein. L'occupation humaine commence avec l'expédition 1, car les missions vers l'ISS sont tout simplement numérotées, celle de Thomas Pesquet dans la 65e. Ces trois premiers astronautes, deux Russes et un Américain, y arrivent le 2 novembre 2000 à bord d'un Soyouz pour la quitter le 19 mars 2001 avec la navette spatiale Discovery. Depuis, il n'y a eu aucune interruption de la présence humaine à bord, donc un record puisqu'on a dépassé les 20 ans, doublant celui de Mir qui a été de 10 ans d'occupation ininterrompue de 1989 à 1999. Depuis 2009, il y a généralement 6 personnes à bord pour des missions de 6 mois, avec des pics temporaires à 9 entre l'arrivée et le départ des nouveaux équipages, et maintenant un peu plus avec les Crew Dragon, comme je l'ai expliqué.
Alors vous pouvez nous en dire plus, comment ça se passe la vie à bord, comment ils vivent les astronautes à bord de l'ISS?
Voilà, il ne faut pas imaginer le séjour comme une partie de plaisir, car le planning des astronautes est très dense, avec de nombreuses expériences à mener, et l'obligation de consacrer au moins 2 heures par jour aux activités sportives afin d'éviter une trop grande fonte musculaire en apesanteur. Même s'il y a 16 couchers et levées de soleil par jour, puisque la station effectue une orbite en 1h30, le rythme à bord est basé sur des journées de 24 heures, arbitrairement basées sur le temps universel coordonné, ou UTC, qu'on appelait autrefois GMT pour Greenwich, puisqu'il est calé sur l'heure du méridien de Greenwich. Ça fait donc très peu de décalage avec la France, puisqu'on est à UTC plus 2 heures et UTC plus 1 heure en hiver, mais beaucoup avec les USA. Une journée type démarre à 6 heures avec une inspection de la station avant de prendre le petit déjeuner, et la matinée de travail commence à 8h10 pour se terminer à 13h05. La pause déjeuner dure 1 heure et le travail reprend jusqu'à 19h30, horaire du dîner et d'une réunion d'équipage. La période de repos commence à 21h30. La journée de travail dure donc dans les 10 heures et il faut aussi y caser la séance d'exercice physique. C'est le planning en semaine, mais le samedi on ne fait que 5 heures le matin. Le reste du temps est consacré à la détente, par exemple pour observer la Terre depuis la coupole panoramique et prendre des clichés, comme le fait Thomas Pesquet qui avait rapporté 85 000 photos de sa première mission. Le confort est assez sommaire, par exemple la toilette réalisée avec des lingettes humides et du savon en tube et du shampoing ne nécessitant pas de rinçage. Pour le sommeil, il n'y a pas besoin de lit en apesanteur et les astronautes se glissent dans des sortes de sacs de couchage, surtout pour éviter de flotter librement et de se cogner. Le fonctionnement du support de vie de l'ISS est basé sur le recyclage, notamment du CO2 rejeté par la respiration des astronautes, dont un dispositif extrait l'oxygène pour les réalimenter, en filtrant aussi les particules et autres micro-organismes. Idem pour l'eau, et quand j'ai parlé tout à l'heure des toilettes, il faut penser que l'urine est recyclée pour produire de l'eau qui permet de boire ou de réhydrater les portions alimentaires. Car de ce côté-là aussi, il ne faut pas s'attendre à des menus 3 étoiles, même si le séjour des Français a permis d'améliorer sensiblement la qualité des rations. Les menus se répètent selon un cycle de 15 jours, et il n'y a aucun réfrigérateur pour conserver des produits frais. Tout le ravitaillement est assuré par des missions cargo de vaisseaux automatiques rejoignant la station tous les mois ou 2 mois environ et qui repartent chargés des déchets. Il y a bien sûr des réserves et l'échec d'une mission de ravitaillement russe le 1er décembre 2016 n'avait eu aucune conséquence fâcheuse pour l'équipage dont faisait partie à l'époque Thomas Pesquet. Bien entendu, tout est fait pour assurer la sécurité de l'équipage, à commencer par la remontée de l'orbite de temps en temps, car malgré l'atmosphère très peu dense dans laquelle se déplace, hein, il y a toujours un peu d'air au-dessus des fameux 100 km de la limite qu'on attribue à l'atmosphère, elle perd progressivement de l'altitude. Même si le module russe Zvezda comporte des moteurs pour cette opération, la plupart du temps, ce sont les vaisseaux arrimés qui contribuent à la poussée nécessaire. L'autre risque important est la collision avec les nombreux déchets qui orbitent autour de la Terre. Une surveillance est opérée depuis le sol pour tous les objets de plus de 10 cm et cela conduit parfois à modifier temporairement l'orbite pour les éviter. Le 16 juillet 2016, la situation était jugée si dangereuse que les astronautes ont dû se réfugier temporairement dans le Soyouz afin de pouvoir évacuer si cela tournait mal.
Alors, parlez-nous de l'avenir de cette station spatiale.
Alors, lors de la conception initiale, on avait prévu que la durée de vie de l'ISS serait de 30 ans, mais pour des raisons budgétaires, les modules ont généralement été conçus pour durer 15 ans. Donc, leur date d'utilisation limite a commencé dès 2013 pour certains, et on craint qu'avec le temps, des incidents pourraient se multiplier. Cependant, on n'a jamais cessé de repousser l'arrêt de son exploitation. En janvier 2014, on a décidé de poursuivre son financement pour 10 ans, donc jusqu'en 2024. La NASA a mené des études, semble indiquer qu'il n'y avait pas de risque majeur à cette prolongation, d'autant plus que les incidents ont été surmontés jusqu'à présent. Les panneaux solaires ont néanmoins tendance à vieillir plus vite que prévu, et la mission actuelle avec Thomas Pesquet prévoit des sorties extravéhiculaires pour remplacer certains par des modèles plus performants en les installant par-dessus les anciens pour utiliser les liaisons électriques existantes. Un cargo doit en apporter deux dès cet été, mais la date n'a pas encore été programmée. En 2017, le prolongement jusqu'en 2028 a été envisagé, mais la NASA ne semble pas vouloir aller au-delà de 2024. Une exploitation privée pourrait être envisagée. Plusieurs scénarios sont étudiés pour désorbiter l'ISS, y compris avec un maintien en orbite des deux modules russes. De toute façon, ce sera une opération de démantèlement très coûteuse, estimée à au moins 2 milliards de dollars. Bien entendu, des successeurs ont été proposés, mais à ce jour, ils ne sont pas encore bien définis ni financés. De son côté, la NASA semble vouloir quitter l'orbite terrestre au profit d'une station en orbite autour de la Lune, baptisée Lunar Orbital Platform Gateway, qui trouverait toute son utilité comme relais dans le cadre du programme Artemis, avec des trajets assez fréquents vers la Lune et une base permanente à sa surface pour des séjours de longue durée. En septembre 2017, l'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé avoir signé un accord pour participer à ce projet. En 2019, la NASA a commencé à engager des budgets et à sélectionner des entreprises pour la construction des modules. Selon le planning actuel, leur lancement pourrait commencer dès 2024. L'avenir de la station spatiale est donc peut-être autour de la Lune.
Allez, troisième partie de la chronique astro numéro 74 de Michel Favre sur Eau de Radio 91.3 FM. Et Michel va tout de suite nous parler du ciel du mois.
Alors comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web www.constellationsetgalaxies.org pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. Je dois le mettre à jour cet après-midi pour le mois de mai. Avec les jours qui rallongent et l'approche du solstice d'été, la nuit survient de plus en plus tard, avec en ce moment un soleil se couchant un peu après 21h et la nuit survenant vers 22h30 et même 23h pour un ciel bien noir. À la fin du mois, le coucher sera après 21h30 et la nuit vers 23h. J'en profite pour faire remarquer que les décalages du couvre-feu annoncés par le président à 21h le 19 mai puis 23h le 9 juin, si tout va bien, ne permettront pas de reprendre la pratique de l'observation astronomique, sauf les amateurs qui disposent chez eux d'un ciel bien dégagé et pas trop voilé par les éclairages. Maintenant que nous sommes au cœur du printemps, ce sont les cassations typiques de cette saison qui occupent la plus grande partie du ciel, avec en début de nuit le Lion bien au plein sud, suivi par la Vierge et le Bouvier, pour ne parler que des plus grosses. Fin mai, le Lion aura déjà bien basculé vers le sud-ouest pour aller se coucher. C'est la Vierge qui dominera le ciel plein sud et le Bouvier encore plus haut, suivi des constellations, faisant la transition avec le ciel de l'été comme Hercule. Comme la Voie lactée est absente du ciel, le printemps est favorable à l'observation des galaxies. Si on est courageux, on peut essayer aussi d'observer les passages de l'ISS, mais s'ils se produisent en ce moment entre 3h et 6h du matin. À partir du 17 mai, on pourra la voir le soir entre 22h et minuit. Je mettrai les horaires sur le site, sachant que c'est très peu différent pour Bordeaux par rapport à mon site d'observation en Dordogne. Côté planète, Mars est encore visible en début de nuit, mais se couche vers 1h du matin. Plus très lumineuse, elle est reconnaissable à sa couleur orangée. C'est donc le matin qu'il faut chercher les planètes, avec surtout Saturne et Jupiter, qui se lèvent dans cet ordre respectivement vers 3h30 et 4h. En fin de mois, ce sera 2h, 2h30. Jupiter est de loin l'objet le plus brillant visible dans le ciel nocturne en ce moment, excepté la Lune bien sûr. Saturne est situé plus à l'ouest, donc à droite, à une distance d'environ une main et demie, bras tendus. Mercure sera observable dans les lueurs du crépuscule vers la mi-mai, car son écartement du Soleil sera maximum le 17. Et à la même époque, Vénus refera son apparition le soir, mais encore assez brièvement. Avec cette configuration planétaire, il y aura donc peu de conjonctions ce mois-ci. Un gros croissant de Lune était proche de Saturne hier matin, puis de Jupiter ce matin. On pourra observer un très fin croissant près de Mercure jeudi prochain, le 13 mai, dans les lueurs du couchant. Et le samedi 15, ce sera près de Mars, à environ la largeur de deux doigts bras tendus. Et ce sera de nouveau avec Saturne le matin du lundi 31 mai, entre les deux planètes le 1er juin, puis près de Jupiter le 2. Je vous en parle déjà, car après le petit décalage de notre rendez-vous mensuel d'une semaine, dû aux restrictions de déplacement qui viennent juste d'être assouplies, la prochaine chronique devra avoir lieu le mercredi 2 juin, où nous parlerons sans doute de l'éclipse très partielle de Soleil qui aura lieu une semaine plus tard. Puis nous nous recalerons à notre habituel dernier mercredi du mois à partir du 30 juin.
Voilà, merci Michel pour cette belle chronique. Voilà, on plane dans l'actualité qui plus est. Alors là, comme il nous reste juste quelques minutes, rappelez notamment que via le site constellationsdesgalaxies.org, on peut retrouver toutes les chroniques et si vous voulez compléter, rajouter.
Voilà, bah c'est dans la même rubrique, astronomie. On a les cartes du ciel du mois et on trouve la rubrique concernant toutes les chroniques O2 qui sont. Écoutable avec une liste où il est précisé un petit peu les sujets qui sont abordés à chaque fois, ce qui permet de choisir, de picorer, comme je dis, dans la liste si nos auditeurs sont intéressés à réentendre certaines de mes chroniques.
Très bien. Bah Michel, rendez-vous le mois prochain, mercredi 2 juin. Voilà, en espérant que tout ce qui a été annoncé sur les nouvelles mesures et prérogatives sanitaires soit maintenu. Voilà, en tout cas, merci.
Et en espérant surtout que ça s'assouplira encore plus pour cet été, parce qu'il y a bientôt les fameuses nuits des étoiles qui nous arrivent.
Un rendez-vous ô combien important et récurrent. Voilà, et on en parle avec vous et certainement d'autres associations sur notre antenne. En tout cas, encore merci à vous, Michel Favret, voilà, pour cette chronique astro.